dans le forum avec Tony Marinaro, on se branche à Habs Radio.
Des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est notre segment Habs Radio. Les mauvaises nouvelles, que Snake Boisvert, il n'est pas là encore.
Il s'en vient dit qu'il y a des problèmes avec le lien Zoom ce matin.
Il y a des problèmes avec le lien Zoom un matin.
J'y envoie ça.
Mais dis-y de prendre le téléphone, on va le faire le téléphone.
Il y a non, pas non, problème. Mais il l'a le lien là.
Hein?
Il
va se CF Montréal contre le Crew de Columbus ce soir. Ça va être un match, écoute, maintenant, ça va, tous les matchs vont être importants pour le CF Montréal. OK, ils ont joué un tiers de la saison et ils ont juste 6 points. 3 nuls puis 1 victoire à leur fiche. Les bonnes nouvelles, c'est que la victoire, c'était le dernier match à New York City contre New York City FC. Là où est-ce que le club d'an passé a eu beaucoup de misère, c'est pas facile de jouer là. Et ils doivent sortir un gros match ce soir. Tom Bogart est l'un insider par excellence de la MLS. Mm-hmm. Lui, il travaille pour l'Athletic, OK? Dans le hockey, là, t'en as plusieurs. Là. T'as Elliot Friedman, t'as Pierre Lebrun. T'as
dans la MLS.
Frank Saravalli. Dans la MLS, t'en as un. Il y a Tom Bogart, OK? Et lui, a écrit quelque chose hier matin qui a parlé de la qualité sur le terrain, la qualité du spectacle, la qualité du stade, la qualité de tout ça. Puis, il a donné une note pour toutes les équipes dans la Ligue d'aller les voir dans leur stade, puis la qualité.
Okay.
Puis, malheureusement, pour l'instant, le CF Montréal, dans sa liste, sont tout derniers.
Ah.
OK? Donc, là, il y a un tiers de saison qui a été joué. Là, il va falloir prendre des choses au sérieux. Là. Puis Max Schumann, il a dit hier, là, c'est que lui, il entend qu'on va voir beaucoup plus Joey Saputo dans les semaines à venir. D'ici quelques semaines, il va être beaucoup plus présent. Puis en espérant là, qu'il va investir beaucoup plus et qu'ils vont... parce que le mercato s'en vient.
Mais là, ils en ont besoin, Tony.
Durant l'été, là.
Besoin énorme, là.
Ben, je sais qu'ils en ont besoin énorme. Oui,
si ce club-là bouge pas, on comprend plus rien, là.
Et là, Toronto, les Leafs de Toronto, ils ont besoin d'Austin Matthews. Aussi. Et là, on dit peut-être un blessure au dos. Snake Boisvert, comment vas-tu?
Ça va bien, toi, Tony?
Ça va très bien. J'ai pensé à ça un matin parce que, évidemment, il y a énormément de pression sur Austin Matthews au moment qu'on se parle. Là, parce qu'on parlait de Connor Hellebuyck plus tôt ce matin. Là, lui qui joue jamais des bons matchs à l'étranger dans les séries. Mais Austin Matthews, là, dans les séries, là, on s'attend à beaucoup plus. Tu sais, dans le passé, Mitch Marner a donné plus en série que Matthews. Nylander a donné plus en série que Matthews. Là, on attend le vrai Austin Matthews. Là, il va se mesurer à un gars, le premier centre des Panthers de la Floride, Sacha Barkov, évidemment, que lui, il a toujours bien joué dans les séries éliminatoires. Là. Évidemment, il était très, très fort l'an passé dans la conquête de la Coupe Stanley pour les Panthers. Donc, je te demande de comparer les deux, mais j'imagine que toi, leur année de repêchage, tu les as couverts. J'imagine que tu as fait beaucoup de devoirs. C'est quoi les informations que tu avais sur ces deux joueurs-là lors de leur année de repêchage?
Mais moi, j'ai encore des notes de ces années-là que j'avais prises. Parce que c'est toujours drôle, des fois, d'aller les revoir quelques années plus tard. Puis c'est comme ça qu'on s'améliore dans nos évaluations, parce que on voit qu'est-ce qu'on avait de bien puis qu'est-ce qu'on avait de moins bien. Alors, dans le cas de Matthews, ça, c'était en 2016, son année de repêchage. Puis moi, en gros, ce que j'avais sur lui, dans le positif, évidemment, il y avait son lancer lourd, puissant, qui décochait rapidement. Son coup de patin, une bonne force d'accélération. Gars qui protégeait bien la rondelle. Mais ce que j'avais écrit à l'époque, j'avais trouvé qu'il trichait un peu des fois. Puis, je me demandais s'il deviendrait un centre dans la Ligue nationale ou il serait plus un ailier. Alors, il est devenu un centre, mais l'idée de tricher, je pense qu'on le voit quand même encore un petit peu.
Moi, j'ai une discussion avec mon chum vis-à-vis Matthews. Évidemment, ouais. Il y a tellement bon franc-tireur, même là, il produit jusqu'à maintenant dans la Ligue nationale, dans la saison régulière, à un rythme supérieur à Ovechkin. Donc, on dit s'il y en a un qui va battre le record, ça va être lui. Évidemment, il doit garder la santé, ce qui n'est pas toujours évident, pas toujours facile. Et évidemment, la longévité aussi qui vient avec. Mais des fois, on le regarde jouer, puis il a l'air plus d'un ailier qu'un centre.
Ben, moi, c'est ce que j'avais remarqué il y a une dizaine d'années. Parce qu'un centre, c'est un gars qui est supposé prendre le contrôle du jeu, puis en même temps avoir des responsabilités défensives. Tu sais, c'est un gars qui doit être quand même assez complet sur la patinoire. Puis je trouvais, moi, que Matthews, puis je trouve encore que, tu sais, je suis pas sûr à 100% qu'en tant que centre, que c'est un centre de premier plan. C'est un attaquant de premier plan, évidemment, à cause du fait qu'il marque tellement de buts, puis il est tellement dangereux. Mais je ne sais pas si, comme joueur de centre pur, si c'est vraiment l'idéal.
Barkov, oui. Lui, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est un centre idéal.
Oh oui. Je retourne en 2013, et puis ce que j'avais moi là-dessus, je trouvais que ce qui me frappait, c'est que c'était un gars pour son âge, à 17 ans, qui était extrêmement discipliné sur la glace. Dans le sens que tu sais, il jouait sa position quasiment comme on jouait une partie d'échecs. Il avait pas le flash de Nathan MacKinnon qui avait été repêché juste avant lui cette année-là, mais c'est un gars qui était capable de créer de l'espace, il était fort, il protégeait bien la rondelle, il était habile manieur de rondelle. Donc, c'était un gars qui était vraiment, c'était un joueur presque parfait. Je te dirais, la seule petite chose que j'avais de moins positif, je trouvais que son patin était correct à l'époque, mais que c'était pas nécessairement une fusée. Et puis, tu sais, c'était sûrement pas Nathan MacKinnon de ce côté-là. Mais le reste de son jeu, il était tellement bien que je pense que les Panthers, en le choisissant deuxième, ils ont vraiment, bien fait leur coup. Parce que si tu te rappelles, à l'époque, oui, c'était pas unanime que Barkov...
Mais là, j'étais pour aller là parce que ouais. Drouin est sorti troisième, Seth Jones est sorti quatrième. Cette ouais. année-là, si je m'en souviens bien, là, je m'en souviens qu'il y en avait certains qui avaient Seth Jones pour aller premier avant Nathan MacKinnon.
Ben oui.
Et il n'y avait personne qui avait Barkov avant Drouin. Personne.
Ben, ouais, on va dire comme toi, c'était serré. Barkov, Drouin, c'était très serré. Seth Jones avant Barkov, c'était presque tout le monde.
Oui.
Il y en a qui se disaient, ça va être un ou deux, là, MacKinnon et puis Seth Jones. Puis Jones, surtout, qui était originaire de Denver. Alors, il y en a qui disaient, ben c'est parfait, il va aller à l'Avalanche, sa ville natale. Mais Patrick Roy venait d'arriver comme coach. Et Patrick Roy avait été coach dans la LHJMQ cette année-là.
Il a mis son pied à terre, là, Patrick.
Ben oui, parce qu'il était en amour avec Nathan MacKinnon. Puis on a vu que ça a été... MacKinnon, là, veut pas... MacKinnon et Seth Jones, ça se compare même pas, là.
Oui, ouais, Patrick avait visé juste, évidemment. Puis les Panthers aussi avec Barkov numéro 2, lui qui avait connu une très bonne saison régulière en Finlande avec 48 points en 53 matchs. Dans les séries, il avait 5 passes en 5 matchs, il n'avait pas marqué de but. Puis Jonathan Drouin, il avait des statistiques incroyables. Là. Il y en avait dans le temps, t'en souviens, là. Il y en avait Halifax qui disait que Drouin était supérieur à MacKinnon.
Oui, ça aussi, je l'ai entendu, puis dans les arénas, puis je me rappelle même qu'il y avait des gens de la Ligue, de la LHJMQ, qui se demandaient si MacKinnon deviendrait une grande vedette ou pas. Tu sais, je veux dire, tout le monde s'entendait que ça serait un très bon joueur, là. Il y avait pas de là-dessus. Mais moi, j'entendais des gens, des fois, me dire, ben, je sais pas si ça va être une grande vedette. Puis si tu te souviens, les trois premières saisons de MacKinnon, ben, sa première saison était très bonne. Mais après ça, il y a eu une baisse de régime dans les deux saisons suivantes avant l'échange de Matt Duchene. Puis on dirait que c'est là vraiment qu'il a pris son envol quand Duchene a été échangé puis qu'il est devenu le premier centre. Mais il y en a bien qui se disaient à l'époque, ah, on avait raison, MacKinnon, il n'est pas si bon que ça. Puis finalement, ben écoute, ça s'est avéré que MacKinnon, c'est un des cinq meilleurs joueurs de la Ligue depuis quelques années.
C'est incroyable, là, je m'en souviens. Moi, j'ai un chum qui était en arrière d'un banc d'une de ces équipes-là dans la Ligue junior majeure du Québec dans le temps. Et je l'appelais souvent pour lui poser des questions sur Nathan MacKinnon. À un moment donné, il m'a dit, « Tony, arrête de me poser des questions sur Nathan MacKinnon. Jonathan Drouin est meilleur que lui. Ouais. » Là, oui. Il dit, « Mais oui. » Il dit, « Il y a des choses que Drouin peut faire avec la rondelle que MacKinnon ne peut pas faire. » Ah oui! Oui. C'est incroyable aujourd'hui si on regarde leur carrière. Hein.
Je l'ai entendu, celle-là, Tony. Je l'ai entendu. Ton chum, il n'est pas le seul qui disait ça.
Tu sais, la force, mais tu vois, tu sais, le job de dépisteur, là, on sait que c'est pas facile. Hein. C'est peut-être le job le plus difficile dans tout le hockey. Parce que il faut des fois, après une entrevue, deux entretiens, il faut que tu prédis pas seulement quel genre de joueur il va être, mais il va falloir que tu rentres vraiment pour savoir quel genre de caractère qu'il a. Parce que Nathan MacKinnon, OK, 12 ans après son année de repêchage, on vient de voir des choses qu'on sait maintenant sur lui. C'est un gars qui veut toujours être sur la glace. C'est un maniaque de la forme physique. C'est un maniaque de la nutrition. Le gars, il boit comme un champion, il mange comme un champion, il dort comme un champion, il vit comme un champion, il repose comme un champion, il relaxe comme un champion, il récupère comme un champion. C'est un gars qui pousse Sidney Crosby à travailler plus fort dans la saison morte, puis Crosby pousse lui à travailler plus fort.
Ouais.
Tu sais, c'est un passionné d'hockey qui a jamais crûlé sous la pression. Tandis qu'il y en a d'autres passionnés d'hockey qui croulent sous la pression, puis il y en a d'autres qui ont un talent fou, comme je pense que j'apprends pas, puis je veux pas, je le dis en tout respect, là, mais j'apprends pas grand-chose à des gens pour dire là, que Jonathan Drouin, c'est un talent incroyable d'hockey, mais son éthique de travail, malheureusement, se compare pas, puis pas du tout à Nathan MacKinnon.
Ouais, ce qui arrive à cet âge-là, c'est que tu sais, à un moment donné, tu entends des choses, tu parles à des gens, tu peux les passer en entrevue. Il y a des choses qui sont évidentes. Des fois, en entrevue, là, même si les questions sont déjà toutes préparées à l'avance, les réponses sont préparées à l'avance, les agents vont coacher les joueurs. Il y a quand même des choses. À un moment donné, quand tu dévies un petit peu des conversations, j'en ai fait des entrevues, quand tu dévies un petit peu du scénario, il y a des choses que tu peux voir dans le langage corporel. C'est sûr que les jeunes, ils ont 16 ans, 15 ans, ils sont nerveux. Ça, c'est officiel, mais il y a des choses que tu peux détecter des fois quant à leur intérêt pour le hockey. Parce que contrairement à ce que bien des gens pensent, puis moi, ça m'avait surpris, tu sais, parce que quand on est plus jeune, quand on est petit, on a l'impression que tous les petits gars veulent devenir des joueurs de hockey. Mais pas tant que ça. Puis des fois, tu parles à des gars, oui, ils ont du talent, oui, ils sont bons, mais c'est comme dans n'importe quel domaine. Tu sais, j'en ai vu des gens à l'école, Tony, avoir des 90 de moyenne, mais l'école les intéressait pas. Puis ils ont pas fait de baccalauréat ou de maîtrise, tu sais. C'est pas parce que t'es bon dans quelque chose que nécessairement tu vas être un passionné. Puis je pense que c'est ça l'affaire qui est la plus difficile à détecter ou qui est la plus importante, je te dirais, la plus importante à détecter chez un jeune quand tu lui parles. Mais c'est difficile. Une entrevue comme ça, c'est difficile. Faut que tu trouves des moyens détournés de le demander. Parce que sinon, le jeune, il sait ce que tu veux entendre, puis il va te le dire.
OK, choix 16 et 17 pour le Canadien lors du repêchage amateur 2025 qui s'en vient au mois de juin. Est-ce que tu vas être là à Los Angeles, Snake? Ou?
Non, je ne serai pas à Los Angeles, mais je vais quand même être très actif là, ces journées-là, je suis pas mal sûr.
Veux-tu y aller avec moi?
Ben, comme je t'ai dit, j'ai déjà pas mal des engagements là, ces journées-là okay. Pour le repêchage. Malheureusement.
Heureusement ou malheureusement. Je pense que je vais y aller. Je ne suis pas sûr encore. Okay. Mais je pense que.
C'est pas un show. Ça ne sera pas le show habituel cette année. Hein,
oui, parce que les équipes, c'est ça. Là. Il va y avoir beaucoup moins de membres des médias qui vont être là cette année parce que les équipes, le management. Et les dépisteurs, ils restent à maison.
Voilà. Ça va être comme la NBA, la MLB puis la NFL finalement.
Donc, on dit qu'il y a plusieurs réseaux de télévision. Les réseaux de télévision, ils vont rester à la maison. Parce qu'évidemment, si jamais il y a une transaction et un jeune qui est repêché n'importe quoi, ils vont rester ici pour parler avec le DG de l'équipe ou les dépisteurs de l'équipe. Mais on dit que les journalistes ou les gens qui font les podcasts, il va y en avoir beaucoup qui vont aller au repêchage, mais les réseaux de télévision, ils vont rester à la maison.
C'est drôle parce que la LHJMQ, fait son repêchage comme la LNH le faisait avant. Hein. Cette année, c'est encore un show dans un aréna au Centre Vidéotron à Québec avec la formule où on appelle les joueurs au podium.
Mais moi, je veux te dire, là, la nouvelle formule, on ne l'a pas vue encore. Là. Ils veulent évidemment copier la NFL.
Oui.
Mais moi, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas parce que la culture de la NFL, là, c'est la culture de la NFL. La culture du hockey, c'est différent. C'est pas parce que ça marche dans la NFL que ça va marcher dans le hockey. Puis je peux me tromper. Peut-être que ça va être un gros succès à la fin. Une des raisons pour lesquelles ils vont le faire aussi, c'est diminuer les coûts pour tout le monde, là, pour toutes les équipes, là, sur les voyages, puis les hôtels, puis tout ça. Mais moi, je l'aime pas, la nouvelle formule.
Je l'aime pour la bonne et simple raison que du point de vue recruteur, c'est beaucoup plus tranquille dans une pièce chez toi, tu sais, je veux dire à tes bureaux, que sur un plancher qui est bondé d'équipes, de bruit, de distraction. Moi, je pense que pour les recruteurs, ça va être mieux, mais peut-être que pour le public, pour les joueurs, ça va être moins intéressant.
C'est quoi la valeur 16, choix 16 et choix 17 des Canadiens? Ben, si regarde, jamais si ils voudraient l'échanger, là.
Oui, si je te nomme, ben, tu veux dire pour l'échanger ou pour repêcher?
On va commencer pour l'échanger. Si jamais ils décident de l'échanger, là, ils appellent une équipe, ils veulent avoir du renfort tout de suite.
Ouais.
Quand l'équipe vont entendre, on t'offre choix 16 et 17.
Oui.
Ils vont-tu rire ou pleurer?
Bien, ça dépend de ce que tu vas obtenir en retour. Il y a beaucoup de chartes de valeur de choix qui disent que 16 et 17, ça peut te donner le numéro 5. OK? Est-ce que c'est scientifique? Je ne sais pas. Mais moi, c'est ce que j'ai lu dernièrement. 16 et 17 te donne le numéro 5. Des échanges de deux choix collés pour un joueur déjà établi dans la LNH. Ben, honnêtement, moi, de mémoire, j'en ai pas d'échanges qui sont arrivés comme ça. Alors, qu'est-ce que tu peux obtenir pour 16-17? Je pense que ça dépend des années. Ça dépend aussi si l'équipe en question, les joueurs qu'elle cible vont être encore là. Il n'y a pas personne, je pense, qui va nécessairement te donner un joueur de premier trio de 22-23 ans pour les choix 16 et 17. Je pense que si tu vas chercher quelque chose pour ça, ça va être un joueur soit qui ne veut plus jouer pour l'équipe en question, soit qui devient autonome en dedans de 2 ans, soit un joueur plus âgé. Tu sais, je ne sais pas, il n'y a pas de magie à faire avec ça, là, les choix 16 et 17, à mon avis.
Si garde Carbonneau, est-ce qu'il va être dispo?
Moi, je te dirais plus oui que non. Il s'agit qu'une équipe le prenne 15e pour me faire mentir, là. Mais je pense que les chances que Carbonneau soit encore là au numéro 16 sont très bonnes.
Évidemment, il va avoir la pression sur le Canadien si jamais il est dispo pour le prendre, mais toi, tu as déjà dit, tu as souvent vu des recruteurs des Canadiens à Blainville.
Oui. Puis évidemment, ça ne veut rien dire dans le sens que ça ne veut pas dire qu'ils vont le prendre, mais ça veut dire au moins qu'ils vont avoir fait leur devoir à son sujet parce que tu sais, c'est rare que les Canadiens se retrouvent dans une position en première ronde où un joueur québécois va être repêché, on présume, à peu près au rang où le Canadien choisit. Parce que, tu sais, c'est bien beau de dire on voudrait Elliott Desnoyers. Oui, mais Elliott Desnoyers, il va être parti. Par contre, ou bien non, si tu aimes un joueur, mais que c'est plus un gars qui va être repêché 28-30e, bien, tu ne veux pas le choisir 16e. Mais je pense que si tu repêches un Carbonneau 16e, tu le repêches vraiment dans la fourchette de sélection auquel il pourrait, tu sais, qui lui convient bien. Il n'y a pas personne qui va dire « Ah, pourquoi t'as repêché Carbonneau 16e? T'as pas eu un vol, mais t'as pas eu non plus ce qu'on appelle en anglais un reach, là, tu sais, dans le sens que tu t'es pas étiré pour aller le chercher. Là. T'as pris vraiment un gars qui mérite d'être à ce rang-là. Donc, pour moi, ça serait une sélection quand même idéale à 16 ou 17.
Puis pour toi, il n'y aurait pas de danger à la Louis Leblanc quand lui était vers 17, 18, 19, puis le Canadien avec le 18e choix, ils ont dit « OK, il faut qu'on prenne le gars de chez nous, le gars de résident de Pointe-Claire, on va prendre Louis Leblanc, qui lui, dans le temps, jouait pour, si je ne me trompe pas, les Lancers d'Omaha, dans la USHL. Pour toi, il n'y a pas de danger, là, si jamais ils choisissent un gars de chez nous pour dire « OK, là, il est là, il est classé, 16e, on va le prendre, comme ils ont fait avec Louis Leblanc. »
Ben, moi, je pense qu'il faut que tu fasses une liste. C'est évidemment que si tu mets Carbonneau 43e sur ta liste, tu ne le prends pas. sais, faut que tu suives ta liste aussi. C'est juste que là, je te dis que c'est un joueur qui pourrait être à peu près classé là. Louis Leblanc, si tu te souviens, 18e rang, je pense qu'il avait été choisi. C'était pas mal là qu'on s'attendait à ce qu'il sorte. Louis Leblanc, à l'âge de 16 ans, il y en a qui le voyaient top 10. Après ça, ça a descendu un petit peu. Mais c'était pas, tu sais, c'était pas une grosse surprise que Louis Leblanc soit choisi 18e. Puis en plus de ça, c'était pas une année de repêchage où il y avait beaucoup de profondeur en première ronde. Donc, rendu au 18e rang, même si tu voyais juste Leblanc comme un joueur de troisième trio, exemple, ben, c'était quand même sa place d'être choisi 18e. Alors, je ne défends pas le choix du Canadien. Je fais juste te dire que je ne pense pas qu'ils ont fait un gros effort pour aller le chercher. Puis, un risque. Ben, peu importe qui est-ce que tu vas prendre 16e, il va en avoir un risque. Parce que 16e, là, c'est pas premier. Fait que je regarde la liste des joueurs qui ont été choisis 16e dans les dernières années. Il y a eu des grandes vedettes parce qu'ils ont glissé au repêchage pour une raison quelconque. Et il y a eu des joueurs qui n'ont vraiment pas eu de carrière.
J'ai, comme tu sais, j'ai déjà travaillé avec Grant McHagg,
oui,
ancien dépisteur dans l'administration Bob Gainey pour le Canadien de Montréal dans le temps. Oui. Lui est sorti avec sa liste. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais il y a une liste pour l'instant, puis ça peut changer, dont moi j'ai accès, il m'a envoyé. C'est une liste de top 21. Mm. Puis Caleb Desnoyers, là, lui, il a 4e.
Oui.
Puis la même avant James Higgins.
Oui.
Parce que lui a Higgins 5e.
Oui.
Le jeune Carbonneau, là, sais-tu, est-ce qu'il l'a sur sa liste à lui?
Non, je ne sais pas.
21.
OK.
Au sénateur d'Ottawa.
OK. C'est possible.
Lui, 16 puis 17, là.
Oui.
Il y a Daniil Prokhorov.
Oui.
Et Lyndon Lakovic.
OK. Lakovic, je crois, pourrait être un choix du Canadien. Ça ne serait pas surprenant. C'est un gars qui va sortir à peu près à ce temps-là. Dans le cas de Prokhorov, moi, je ne serais pas prêt à dire que c'est un top 15-20. Je sais que Grant l'aime beaucoup. C'est correct. On a chacun nos coups de cœur. Moi, c'est Carter Bear, mon coup de cœur.
Oui.
Si jamais il glisse au Canadien 16e, le Canadien doit courir au podium, si on peut appeler ça comme ça.
Mais lui, il l'adore parce que lui, il a 10e à Anaheim. Carter Bear.
Oui, OK, c'est ça. Il y a beaucoup de monde, je pense, qui aime Carter Bear. Puis s'il n'avait pas été blessé, puis on l'avait vu en séries éliminatoires, ça aurait peut-être été un choix, peut-être top 7-8. Là, je ne sais pas, je pense qu'il va glisser un peu. C'est un gars qui pourrait glisser au Canadien.
Il n'y a pas eu une blessure à l'Achille, lui?
Ben oui, c'est ça.
Ouais.
Le talon d'Achille. Puis ça, c'est des blessures qui font peur parce que, tu vois, Peyton Krebs a eu cette blessure-là à son année de repêchage. Puis il s'en est... Tu sais, ça n'a pas une grosse carrière, là, Peyton Krebs, à date.
Oui.
Mais par contre, Eric Karlsson aussi, plus tard dans sa carrière, en a eu une, puis il est revenu, puis il a fait 100 points.
Snake, il y a une différence, par exemple, si je peux. Je pense que Peyton Krebs, c'était un déchireur du tendon d'Achille, tandis que Carter Bear, c'était pas un déchireur. Il me semble que c'était, comment t'appelles ça, un laceration, n'est-ce pas?
Laceration, c'est vrai.
Oui.
C'est vrai, c'est moins grave. Il y a eu, pour ceux qui suivent le basket, il y a eu Jason Tatum des Celtics.
Oui, il y a quelques jours de ça, c'était épouvantable ce qui est arrivé, là.
Qui va manquer probablement un an et demi. Alors, tu sais, c'est des blessures quand même qu'il faut réfléchir, sauf que Carter Bear, l'année prochaine, il ne jouerait pas dans la LNH de toute façon. Alors, on lui donne le temps de retourner dans le junior, on voit qu'est-ce qu'il peut faire, puis c'est sûr qu'au numéro 16, tu sais, il n'y a plus vraiment de gros risques là, à ce niveau-là, parce que tu as peut-être juste 50% au numéro 16, c'est à peu près 50% de chances d'avoir un joueur d'impact, je te dirais.
Snake Boisvert avec Mathias Brunet. Processus, le podcast, la commission athlétique, ça sort tous les mardis sur toutes les plateformes. Allez regarder ça. Merci mon ami, puis bon match ce soir entre les Maple Leafs de Toronto et les Panthers de la Floride. Qui as-tu pour gagner ce match très important, match numéro 5, là?
Écoute, je vais aller avec l'équipe à domicile Toronto, mais honnêtement, c'est je ne gagerai pas une scène là-dessus.
Ciao, mon ami. On se parle bientôt.
Merci, Tony.
Merci. Le voilà. Snake Boisvert.